Vous êtes sur RTL.
Allô maman bobo.
RTL.
Allô maman bobo.
Ça va beaucoup mieux, l'hebdo, avec Michel Simès.
Chers amis des DM du dimanche matin, bonjour. Ravi de vous retrouver. Alors, sympa ce petit café en terrasse sous des trompes d'eau, couvert comme au mois de novembre. Convivial ce déjeuner entre potes en essayant de tenir la fourchette avec des gants. Pas trop d'effets secondaires avec l'antibiotique que le médecin vous a prescrit pour cause de rhume, transformé en sinusite, attrapé ce même jour. Ah bah oui, on peut pas tout demander non plus, c'est pas comme si on était au mois de mai. Bon, allez, haut les cœurs, un jour, ça va sourire. En attendant, nous on est là avec la petite bande Emma Strack, Patrice Romden et Christophe Brun et on est bien contents, n'est-ce pas ?
Mais bonjour, oui, bonjour Michel.
Avant de voir le sommaire de cette émission, je voudrais tirer un grand coup de chapeau avec un monsieur avec un M majuscule, un confrère, sénateur et ancien président de Médecins Sans Frontières, à l'origine cette semaine à la tribune du Sénat, d'un véritable réquisitoire contre ceux qu'il appelle les offusqués professionnels.
Claude Malhuret.
Tout à fait. Tous ces bien-pensants qui ne veulent pas entendre parler du pass sanitaire, qui sont souvent les mêmes qui hurlent au liberticide, à la discrimination, parce qu'on ose demander aux Français de se vacciner. Claude Malhuret, en effet, s'adresse à ceux qui hurlent contre ce qu'ils considèrent comme une obligation vaccinale, en leur rappelant que les vaccins vraiment obligatoires ont permis de sauver quantité de vies. Et le sénateur n'oublie pas les leaders politiques qui se prennent pour des experts de l'infectiologie. Je vous conseille vraiment de regarder cette intervention dans laquelle tout est dit. Sur Twitter ou YouTube, par exemple, en tapant Claude Malhuret. Au sommaire aujourd'hui, Emma.
Je continue ma petite exploration des médecines douces et aujourd'hui, je m'intéresse à l'acupuncture. Est-ce que ça marche ? Pour quelles indications ? Est-ce qu'il y a un danger ou des dangers liés à l'utilisation de ces petites aiguilles ? Eh bien, on fait le point dans quelques instants.
Voilà, on discutera aussi du terme de médecine douce. Hein. Les gens qui pratiquent ça, ils n'aiment pas trop.
Il y en a d'autres.
Patrice.
Alors, après-demain, c'est la journée mondiale de la thyroïde. Alors, la thyroïde, c'est quoi ? Eh bien, c'est une petite glande qui se trouve à la base du cou. Elle a la forme d'un papillon. Elle sécrète des hormones qui interviennent dans la régulation du poids, la température du corps ou encore le rythme cardiaque. Mais il arrive que le volume de la thyroïde augmente de manière exagérée. La conséquence, c'est que vous avez un goitre. Et c'est ce qui semble être arrivé à Cléopâtre, la célèbre reine égyptienne.
Christophe. Ah, vous nous faites bouger, vous, le dimanche.
Ah oui, tous les dimanches. J'essaie tous les dimanches. Alors, George Michael, Freedom, quelle année, au fait, cette chanson ? Juste comme ça.
88, 89.
On n'est pas loin. Allez, 90, voilà, Emma, c'est bon.
90.
C'était pas loin. Alors oui, aujourd'hui, nous allons parler de liberté. La liberté de courir sans se fixer d'objectifs particuliers, sans se fixer de plans précis d'entraînement au gré des envies d'allure, de vitesse ou d'endurance, sur des escaliers, sur un chemin, en forêt, sur la route. On va apprendre à adapter sa sortie, qu'on soit un champion ou un quidam, suivant ce que le terrain et notre humeur nous proposent. Et on verra que ça a une origine suédoise. En attendant, Pascal.
Jusqu'à 10h sur RTL. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Dans la famille des thérapies alternatives, je demande l'acupuncture. C'est une thérapie issue de la médecine chinoise traditionnelle et qui repose sur l'implantation de petites aiguilles un peu partout sur le corps, Emma.
Et ces petites aiguilles, elles consistent à stimuler des points qu'on appelle les méridiens. L'objectif affiché est de rétablir un flux d'énergie équilibré. Alors, c'est pas un vocabulaire très courant dans notre médecine occidentale qu'on appelle allopathique, mais c'est de ça qu'il s'agit.
Alors la médecine allopathique, c'est la médecine conventionnelle, hein, celle qui repose sur l'utilisation de médicaments testés et validés par la science. C'est pas le cas de l'acupuncture, même si la technique a fait ses preuves, hein, dans plusieurs indications.
Oui, parce qu'il y en a eu des études sur l'acupuncture. L'INSERM les a même regardées de près et il semble clair que l'acupuncture joue un rôle favorable, notamment dans deux domaines. Les douleurs chroniques d'une part et les nausées et vomissements d'autre part. Et l'Organisation mondiale de la santé va encore beaucoup plus loin et précise précise un effet positif de l'acupuncture sur différents types de douleurs, notamment des douleurs articulaires comme la polyarthrite rhumatoïde, les douleurs du genou, l'entorse, la sciatique aussi, les douleurs dentaires post-opératoires, la colique néphrétique, la rhinite allergique, l'hypertension, la dépression, beaucoup de choses concernant la grossesse également, l'induction du travail, la correction d'une mauvaise position du fœtus et, pour ce qui concerne les nausées et vomissements, là encore deux précisions, les nausées matinales de la femme enceinte et celles du patient traité par chimiothérapie.
Eh bien, dites-moi, c'est varié. Ouais. Les études consacrées à l'acupuncture sont réalisées comment ?
Alors, ça dépend des fois. Parfois, l'acupuncture est comparée à un groupe contrôle qui ne reçoit rien de particulier. Et parfois, elle est comparée à la pose d'aiguille en mode aléatoire. Bon, et puis surtout, on n'évalue pas le soin à proprement parler, c'est-à-dire son mode d'action biologique ou son effet physiologique, mais le ressenti des patients. Donc, en fait, c'est pas facile de faire la part des choses entre l'effet de l'acupuncture et un éventuel effet placebo. Et je précise que c'est pas un gros mot dans ma bouche de parler d'effet placebo, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, on pourrait y consacrer une chronique un de ces jours. Mais en gros, c'est compliqué de mener des études pertinentes sur l'acupuncture, donc difficile de savoir avec nos outils si ça marche ou si ça marche pas.
Elle est maligne, hein, Emma. Elle suggère des chroniques, elle pourrait le faire elle-même.
Ouais. Voilà. Elles sont déjà prêtes à mon avis.
Elle est déjà écrite.
Laissez-la tranquille.
Je t'ajuste le terrain pour voir si ça vous intéresse.
Oui, beaucoup. C'est dangereux l'acupuncture ?
Alors, si c'est pratiqué dans les règles de l'art, pas vraiment. Mais c'est quand même une condition essentielle. Et la première chose que je peux vous conseiller, c'est de ne pas vous lancer dans l'auto-acupuncture avec des tutos en ligne. Ouais. Alors, peut-être que. Voilà,
ça,
j'en étais sûre.
Ça.
Ouais, exactement. Il y a une jeune femme australienne qui s'est fait une petite séance en regardant un tuto sur TikTok. Elle s'est retrouvée totalement défigurée, la pauvre, pendant des semaines parce qu'elle a fait une infection. C'est ça en fait le risque de l'acupuncture avec les petites aiguilles. Elle a même perdu temporairement la vue d'un œil à cause des gonflements.
On évite ce genre de choses et plus généralement on s'adresse à un spécialiste qui, on le rappelle, doit être professionnel de santé.
Et oui, parce que l'acupuncture est considérée comme un acte médical et à ce titre, en effet, elle est réservée aux docteurs en médecine, aux sages-femmes et aux chirurgiens-dentistes qui suivent une formation universitaire dédiée. Pour vous donner une idée, d'après l'Ordre des médecins en 2015, un peu plus de 6000 médecins français ont déclaré un titre ou une orientation de médecine complémentaire et plus de 1 sur 5 en acupuncture.
Alors, nous rappelons, Emma, quand dans le terme, l'expression médecine complémentaire, il y a bien le mot complémentaire.
Eh oui, ça veut dire que si vous avez un problème de santé qui traîne, la première étape, c'est d'aller voir son médecin, parce que c'est lui qui va évaluer la situation, éventuellement la nécessité de faire quelques examens. L'idée, c'est de ne pas passer à côté d'un gros souci de santé. Après, si l'acupuncture vous fait du bien et vous soulage, bah allez-y.
Absolument. Et la prochaine chronique, ce sera sur quoi vous continuez votre exploration ?
J'ai placé beau, j'ai tenté de le placer.
Vous avez placé beau. Très bien, une petite brève, vous voulez quelque chose ?
Ouais, moi j'ai un mot. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des mots. Qu'est-ce que c'est que l'atasagoraphobie ?
Voilà. C'est la peur de quelque chose.
Attends, agora, y a, quand il y a du monde, il y a agoraphobie dans l'histoire là.
Atasagoraphobie.
Est-ce que c'est le A privatif, donc c'est la peur de l'absence
de quand il y a beaucoup de monde.
Il est bon, maître
Capello. Il est bon, parce qu'en fait, c'est la peur démesurée d'être oublié par ses pairs.
Ah, voilà.
Atasagoraphobie.
Atasagoraphobie. Voilà. Il y a un H après le T. Atasa, il y a un petit H qui se promène.
Ouais, mais même au Scrabble, c'est trop long.
Voilà.
Patrice.
Oui, est-ce que vous connaissez le test de Feuchstein ?
Feuchstein.
Michel connaît, évidemment. Non, mais en fait, c'est un test qui permet de vérifier que votre cerveau est toujours en forme, avec des questions très très simples. Hein. On va vous demander en quelle année vous êtes, en quelle saison on est, quel mois, quel est le jour de la semaine. Alors, c'est des questions qui paraissent très très simples, mais le niveau va crescendo, et puis à un moment, on va vous demander aussi, alors c'est pour les personnes d'un certain âge, hein, de retenir trois mots qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, comme par exemple clé à molette, mandarine et moto, par exemple.
D'accord.
Et si vous les retenez, ça veut dire que votre cerveau fonctionne. Et s'il ne fonctionne pas, c'est que vous ne les retenez pas. Enfin, le contraire.
Clé à molette, mandarine et moto.
Et moto. On verra dans 15 minutes.
Là, pour l'instant, vous êtes bien. Ouais. On se retrouve dans quelques instants. On reviendra avec Maître Capello, Patrice, qui va nous parler de la reine d'Égypte, Cléopâtre.
RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. L'hebdo. RTL.
Le bain de Cléopâtre.
Culturellement parlant, l'Égypte, pas non plus.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Ne dis pas qu'il n'y a pas eu une grande période égyptienne.
Mais dites-moi, Patrice, ça n'est pas un Shabbat que nous avons entendu ?
Mais oui, c'est son Astérix. Mission Cléopâtre.
D'accord. Alors, Cléopâtre, donc, c'est vrai que la seule évocation de Cléopâtre déclenche en chacun d'entre nous un feu d'artifice, de représentation mentale flatteuse où se mêle un nez particulier, de larges yeux, un regard irrésistible. L'expression de la féminité épanouie est tutti quanti. Mais la réalité, Patrice, n'est peut-être pas aussi glamour.
Bah ouais, mais ce qui est pratique avec Cléopâtre, c'est que personne ne sait précisément ce à quoi elle ressemblait. Ce qui fait qu'au cinéma, on a tour à tour confié le rôle à l'aguichante Claudette Colbert, à l'envoûtante Vivian Leigh, à l'incontournable Liz Taylor, à la pulpeuse Monica Bellucci.
Il est parti. Patrice, je vous demande de vous calmer.
Okay. Je baisse d'un ton. Parce que s'il n'existe pas de représentation de Cléopâtre qui fasse autorité, cela n'empêche pas une légende de courir les siècles, légende selon laquelle la reine la plus célèbre de l'Égypte antique aurait eu un goitre.
Alors, le goitre, eh bien, ça se manifeste donc par un gonflement du cou. Hein. Finalement, c'est dû à l'augmentation du volume de la glande thyroïde. Le déficit en iode, hein, on est souvent responsable, mais ça peut être aussi l'expression d'une maladie. On parle de maladie de base d'eau pour ceux qui connaissent. Une maladie qui peut toucher tout le monde, même si les femmes entre 40 et 60 ans sont plus exposées.
Alors Cléopâtre, elle n'a pas vécu si longtemps. Hein. Elle est morte à 39 ans. Cela ne veut pas dire qu'elle échappa à cette maladie qui rend particulièrement disgracieux. Cela dit, il n'est peut-être pas indispensable de l'imaginer avec un goitre pour se convaincre qu'elle était sans doute beaucoup moins resplendissante que le suggèrent ses différentes représentations. Hein. Prenez Plutarque. Vous connaissez plus tard que...
Pas personnel.
Ouais, oui. C'est dans une heure.
Voilà.
Excusez-moi. Oh, bien, Godfrey.
Elle est magnifique.
Je vous aurais fait applaudir si j'avais pu.
Je rappelle à ceux qui vivent dans une grotte que Plutarque est un philosophe à cheval sur le 1er et le 2e siècle. Alors autant dire qu'il arrive un siècle après Cléopâtre, mais il a un avis sur elle. Alors je cite, hein, vous allez voir, il a le sens de la litote. On dit que sa beauté en elle-même n'était pas incomparable, ni propre à émerveiller ceux qui la voyaient, mais son commerce familier avait un attrait irrésistible et l'aspect de sa personne, joint à sa conversation séduisante et à la grâce naturelle répandue dans ses paroles, portait en soi une sorte d'aiguillon. Je ferme les guillemets.
Et si je traduis, c'est en gros, c'était pas un canon, mais elle avait du charme. Quoi.
Voilà, c'est ça. Alors j'ai une autre
Elle
piste,
avait hein. du chien. Elle ouais. avait tout du chien.
Plus récemment, des archéologues de l'université de Newcastle se sont penchés sur une pièce de monnaie en argent vieille de 2000 ans à l'effigie de Cléopâtre. Et alors qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on découvre une femme aux traits lourd, au visage empâté, avec un front fuyant, un menton pointu, un nez proéminent et des lèvres fines. Alors on peut faire confiance à la numismatique pour approcher la vérité parce que l'étude des monnaies est la science auxiliaire de l'histoire. Hein. Elle reste l'un des meilleurs indicateurs des traits faciaux des monarques.
Merci Patrice pour cette leçon d'histoire. Docteur Nathalie Bérissi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes endocrinologue, spécialiste de la thyroïde. Alors, on ne va pas vous demander votre avis sur Cléopâtre. Je ne crois pas que vous l'ayez connu non plus personnellement. Mais on a l'impression qu'il y a de plus en plus de problèmes liés à la thyroïde aujourd'hui dans notre société. Est-ce que c'est parce qu'on cherche plus ou est-ce parce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent l'expliquer ?
Alors... Premièrement, je pense effectivement qu'on en recherche beaucoup plus, c'est-à-dire qu'on est un peu systématique sur la recherche de nodules, de dysfonction thyroïdienne, d'hypothyroïdie, parce que les bilans se font beaucoup plus fréquemment. Vous parliez tout à l'heure d'un goitre et des maladies de base d'eau. Effectivement, en fait, comme ce sont des maladies auto-immunes qui sont révélées après un stress, souvent dans des périodes de stress, et je pense que les gens en vivent de plus en plus, on peut très bien déclencher effectivement une maladie de base d'eau et un goitre. Par contre, tous les goitres liés effectivement au déficit en iode sont en nette diminution parce qu'on a des apports en iode tout à fait satisfaisants et corrects, ce qui n'était pas le cas il y a encore peut-être un siècle.
Et d'ailleurs, il y avait ces fameux crétins des Alpes qui manquaient d'iode parce qu'ils habitaient loin de la mer et qu'il n'y avait pas de supplémentation en iode. Ils avaient des goitres, mais historiques, hein, et avec des atteintes cognitives.
Oui.
Est-ce que cette période qu'on vient de traverser, la pandémie, qui n'est peut-être pas complètement terminée d'ailleurs, et qui a été source de stress, vous laisse penser qu'il va y avoir plus de problèmes de maladie de base d'eau, puisque vous nous disiez qu'elle était parfois déclenchée après des traumatismes ?
Alors non, parce que je pense qu'il s'agit surtout de traumatismes aigus. Alors, en tous les cas, moi, dans mon exercice quotidien depuis un an, il n'y a pas plus de basse d'eau. C'est vrai qu'il y a des périodes où il y a des déclenchements de basse d'eau, mais à titre individuel, vraiment, le facteur déclenchant, c'est un stress aigu individuel, effectivement, un deuil, un licenciement, une séparation, un divorce. Alors bien sûr, c'était peut-être une période propice à tout ça, c'est évident, mais moi je n'avais pas vu d'explosion de basse d'eau pendant cette période.
Est-ce qu'aujourd'hui il faut être quasi systématique dans la recherche d'un problème thyroïdien si on est fatigué, si on est au contraire un peu trop excité? Parce que finalement, la thyroïde, c'est pour ça qu'on recherche beaucoup aujourd'hui, qu'on dose beaucoup les hormones thyroïdiennes, c'est parce que c'est un peu le chef d'orchestre de beaucoup de choses dans l'organisme. Patrice en a rappelé les véritables fonctions tout à l'heure. Les gens peuvent être fatigués parce que la thyroïde ne fonctionne pas suffisamment, ils peuvent être excités, avoir des troubles du sommeil, avoir une accélération du rythme cardiaque parce que la thyroïde fonctionne trop. Est-ce que finalement, ça devrait, cette recherche des hormones thyroïdiennes, ce dosage devrait faire partie de tous les bilans?
Alors, pas de tous les bilans, mais effectivement, de toute façon, aujourd'hui, c'est très fréquent qu'avec un signe clinique qui évoque une fatigue, une hypothyroïdie, on dose très, très, très facilement TSH, FT4, et je pense, même chose quand il y a un amaigrissement, une tachycardie, enfin des signes francs d'hyperthyroïdie, véritablement, c'est très, très fréquemment dosé. Il est rare d'avoir maintenant plusieurs mois avant la déclaration de la maladie et le diagnostic. Voilà, et j'insisterai sur le point. Au contraire, je veux dire, quand un bilan thyroïdien est fait à titre systématique, sans aucun point d'appel clinique, et que l'on voit une petite hypothyroïdie frustre, sans appel et sans signe clinique, il n'est pas nécessaire de traiter en dehors d'un projet de grossesse ou d'une grossesse. Voilà, donc parce qu'on essaie de traiter non pas un chiffre de TSH, mais surtout améliorer un symptôme si vraiment ce symptôme est vraiment en relation avec une hypothyroïdie.
Merci beaucoup. Je vais juste traduire. TSH, c'est l'hormone qui vient de l'hypophyse et qui va donner l'ordre à la thyroïde de fabriquer, de sécréter les hormones thyroïdiennes. Vous avez parlé d'ST4. Ce sont les hormones thyroïdiennes qu'on dose également. C'est un petit peu de la cuisine médicale, mais c'est pour voir finalement d'où vient le problème. Merci beaucoup, docteur Nathalie Bérissi. Je rappelle que vous êtes endocrinologue spécialisée dans la thyroïde. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Au revoir.
Au revoir. Emma, vous avez deux secondes?
Oui, enfin, j'ai même une
pour
petite...
Pour les auditeurs, pas pour moi.
Il a perdu la tête.
Ah oui, présente. Pas du tout. J'ai une petite question. Pourquoi, quand on prend un bain un peu long, la peau des doigts est-elle toute fripée?
Parce qu'elle se déshydrate.
Contrairement à vous, moi aussi, je le sais.
Est-ce que ce ne serait pas parce qu'on se déshydrate?
Moi, j'ai une autre suggestion. On suppose que c'est le fruit de l'évolution pour nous permettre de mieux saisir, d'avoir une meilleure prise en milieu humide.
À l'époque des préhistoires, c'était pour s'accrocher à la baignoire. Un peu plus.
Non, mais il y a des chercheurs britanniques qui ont demandé à des cobayes d'attraper des billes mouillées avec les mains fripées pour un groupe et avec les mains non fripées pour le deuxième. Eh bien, figurez-vous que le premier groupe y parvenait mieux et plus rapidement.
C'était pour attraper le poisson dans la rivière.
Mais voilà, c'est ça. Poisson dans la rivière. Merci Emma pour cette information très intéressante. On se retrouve dans quelques instants après une petite pause pour la troisième partie, la partie récré de l'émission avec le jeu auditeur.
Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo. RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Partie 3 de l'émission, la partie récré avec le jeu. Je rappelle quand même que nous sommes partenaires avec le magazine, je dirais l'excellent magazine, Dr Good, qui est en kiosque actuellement avec en finir avec le mal de dos. Si vous avez mal au dos, les gestes qui soulagent, les mouvements qui soignent, les exercices qui renforcent votre dos, un très gros dossier. En finir avec le mal de dos, Dr Good en kiosque actuellement.
Les amis, avec une vraie... Une recommandation pour le coup, le mal de dos se soigne. On fait du bien à son dos en gardant le mouvement, il faut bouger.
Il faut garder l'activité. Contrairement à ce qu'on disait il y a quelques dizaines d'années où il fallait rester cloué au lit pendant 2 semaines ou 3 semaines quand on avait un lumbago. Aujourd'hui, on dit tout l'inverse, comme quoi la médecine évolue. Les amis, c'est le jeu auditeur et aujourd'hui, nous allons jouer avec Christelle. Bonjour Christelle.
Bonjour Michel, je suis vraiment tellement heureuse d'avoir été sélectionnée. Voilà, je suis un petit peu impressionnée.
Ah, mais je vous comprends.
Moi, je suis tellement heureuse aussi. Alors, Christelle, vous avez 52 ans.
En fait, je suis drôlement contente.
Ah oui, je suis contente.
Je suis vraiment contente.
Bravo.
Ah, Christelle, elle doit avoir un accent parce que vous habitez Belfort en plus.
Oui.
Vous avez un petit accent à Belfort, non?
Écoutez, je vous laisse découvrir.
Il est léger, on le perçoit, il est léger.
Un petit peu.
Alors, Christelle, vous savez que vous connaissez le principe du jeu, on va vous raconter une petite histoire, il va y avoir trois versions, une seule est bonne et vous allez jouer. Vous faites la cuisine?
Oui.
Eh bien, vous allez gagner un robot multifonction compact de Magimix avec lequel vous pouvez tout faire. En gros, hein, c'est un super robot qui émulsionne, qui pétrit, qui presse. Enfin, plein de très bonnes choses pour la santé. Le compact système 3200 de Magimix multifonction. Et pour ça, il va falloir répondre aux questions.
Et c'est pas simple.
Et c'est pas simple aujourd'hui, Christelle.
Ah ben merci, je vous remercie, c'est sympa.
Non, je vous en prie. mais rien n'est impossible, vous pouvez gagner.
Écoutez.
Au XVIIIe siècle, rares étaient les personnes qui savaient nager. Et par conséquent, nombreuses étaient les personnes qui se noyaient. Quand on repêchait une personne tombée à l'eau, on tentait souvent de la ranimer et on le faisait d'une drôle de manière, recommandée, je le précise, par les plus hautes autorités médicales de l'époque. Version Patrice.
Eh bien Christelle, les autorités médicales ont recommandé qu'on ait recours à la technique de la pendaison divine. Concrètement, il fallait pendre les noyés par les pieds en espérant que l'eau qu'ils avaient dans les poumons ressorte par où elle était entrée. Évidemment, ça ne marchait jamais, mais ça n'a pas empêché quelques sommités médicales de certifier pendant des années que c'était efficace.
Oh bah, y en a d'autres, hein, des choses qui sont certifiées efficaces et dont le monde entier dit que ça marche pas. Hein, enfin, je sais pas. Au hasard.
Pensez à
personne. Version Emma.
Alors, les autorités médicales recommandaient qu'on ait recours à ce qu'on appelle la technique de l'assoiffé. Concrètement, il fallait remplir la bouche du noyé de coton, cette matière, vous savez, si particulière qu'absorbe très rapidement tout ce qui est liquide.
Oui, je pense qu'elle sait ce que c'est que le coton, Christelle.
Je préfère préciser pour être sûr. En fait, c'était la seule manière, disaient ces autorités, d'espérer attirer l'eau avalée par le noyé. Et comme vous l'imaginez, ça ne marchait pas non plus, mais ça n'empêchait pas les gens d'essayer.
Oui.
Version Côte Cricri.
Alors Christelle, vous allez voir que la vérité se cache quelquefois dans des endroits incroyables. Vous allez voir. Les autorités médicales recommandaient que l'on effectue un lavement au tabac. Mais alors là, accrochez-vous, il fallait introduire un petit tuyau dans l'anus du noyé et lui envoyer de la fumée après avoir tiré sur une pipe ou une cigarette. Alors il fallait pas se tromper, hein, pas mettre la cigarette à la place du tout. Enfin, vous voyez, bon. Et en introduisant ainsi de la fumée dans les intestins du noyé, on avait, pensait-on à l'époque, une bonne chance de le ramener à la vie. Ça marchait pas plus que le reste, mais ça mettait un peu d'ambiance au bord des rivières quand même. Voilà. Donc, allez-y, débrouillez-vous.
Christelle, j'aimerais bien que vous gagniez quand même ce robot, vous m'êtes sympathique.
Madame aussi, mais là.
Non, mais attends, c'est.
Parfois, la réalité dépasse la fiction, non, ça que vous voulez dire.
Ouais, les trois versions sont complètement dingues. Et pourtant, il y en a.
Ah, là, c'est un festival. Hein.
Non, mais là, il y en a une qui est bonne. Je vous rappelle la technique de la pendaison divine. Hein, c'est-à-dire, vous suspendez les noyés par les pieds. La technique de l'assoiffé, vous lui mettez du coton dans la bouche. Et la technique étonnante du lavement au tabac qui était censé marcher. Je peux malheureusement pas vous aider plus que ça, simplement vous dire que parfois c'est complètement dingue.
Oui, parce que bon, là ça va être quand même compliqué de procéder par élimination, hein, parce que parfois bon.
Parfois, mais là.
Mais là j'ai droit quand même à un festival. Merci Michel.
Je vous en prie.
Moi je n'aurai qu'un mot. Il n'y a pas de fumée sans feu.
Mais bon. Patrice,
qu'est-ce qu'il y a?
Non, Patrice, vous allez. Moi, après, vous allez voir le type responsable des cadeaux à RTL. On va se faire virer.
Mais je pensais à autre chose.
Ah, non.
Non, Christelle, vous n'avez pas entendu. Pas vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu. Tout va bien.
Bon, Christelle, qu'est-ce que vous auriez dit si Patrice n'avait pas parlé?
Moi, j'ai peur de rien. Et en tant qu'ancienne fumeuse, je pense que Christophe a raison.
Oh, ouais, c'est fou ça. Oh là là. Mais c'est incroyable, hein, parce que vraiment, c'était pas facile. Hein. Alors, Christophe.
Alors, je vais quand même vous donner je vais quand même vous donner le fin mot de l'histoire du fameux lavement au tabac. Aussi énorme que ça puisse paraître, c'est la pratique de réanimation la plus recommandée au XVIIIe siècle. À tel point qu'à l'époque, on se battait pour la faire. Le long des canaux aux abords des fleuves ou partout où il y avait un peu un point d'eau, on mettait à disposition du public des boîtes fumigatoires avec dedans tout le nécessaire, la pipette, la pipe et tout, le tuyau, tout ça, et notamment un petit soufflet pour injecter la fumée du tabac. Là où vous avez compris que c'était pas compliqué de le faire.
En fait. C'est une méthode qui est rentrée dans les annales, bien évidemment. Alors Christelle, vous avez gagné le robot, contre toute attente, le robot multifonction Compact System 3200XL de Magimix.
Ah, merci tout plein.
Merci Christelle, on vous embrasse bien fort et bravo.
Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo.
Et on va changer complètement de sujet maintenant. Est-ce qu'on a cherché finalement ce qui nous arrive avec cette pandémie ? Depuis le début de cette crise sanitaire, on a beaucoup entendu d'experts nous expliquer que c'est notre mode de vie et l'espace que l'on prend aux animaux qui est responsable de la promiscuité avec ces derniers et que nous n'aurions jamais dû avoir de contact aussi rapproché responsable de ce passage d'un virus de l'animal à l'homme. Docteur Jean-David Zetoun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin diplômé de Sciences Po et docteur en épidémiologie clinique et vous publiez un livre vraiment passionnant, La Grande Extension, Histoire de la santé humaine chez De Noël. Aujourd'hui en France, en 2019, hein, ce sont les derniers chiffres, l'espérance de vie à la naissance était de 85,6 ans pour les femmes et 79,7 pour les hommes. Vous écrivez que pendant des dizaines de milliers d'années, on mourait avant 30 ans. Qu'est-ce qui a bouleversé cette espérance de vie ?
C'est pas la médecine, c'est pas la pharmacie, c'est principalement, probablement, la santé publique. Donc il y a un petit nombre de mesures qui ont permis à la majorité des humains de commencer à vivre en moyenne un peu plus longtemps. Donc concrètement, ça veut dire le traitement des villes, donc l'assainissement, le traitement des déchets, l'eau potable, la nutrition, et à la fin du 18e, le début de la vaccination contre la variole. Voilà, c'est ces mesures-là qui ont permis que ça décolle un peu après des milliers d'années de stagnation.
Alors, l'espérance de vie, docteur Zetoun, c'est bien, mais l'espérance de vie en bonne santé est finalement le critère le plus important. Hein, cette espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire ce qui fait qu'on ne va pas être malade, et c'est d'un peu plus de 63 ans, je crois, en France. Je crois que c'est 10 ans de moins qu'en Suède, par exemple. Et les courbes d'espérance de vie et d'espérance de vie en bonne santé qui étaient pendant longtemps parallèles, hein, elles grimpaient en même temps. Finalement, on gagnait des années de vie et on les gagnait en bonne santé également. Elles se sont croisées. Finalement, on va vivre plus longtemps, mais plus longtemps malade.
Toutes les études ne sont pas d'accord. Mais c'est un peu ça, probablement, et c'est lié certainement à l'émergence de beaucoup de maladies chroniques. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a deux énormes types de risques qui sont le risque environnemental avec la pollution de tout type et ce qu'on appelle le risque comportemental, qui n'est pas du tout un jugement de valeur, c'est lié à notre mode de vie, qui font qu'on a plus de maladies chroniques que par le seul effet du vieillissement ou le seul effet de la taille de la population. Et ces maladies chroniques contribuent évidemment à la mauvaise santé et c'est probablement pour ça qu'on n'a pas beaucoup progressé ou pas assez progressé sur l'espérance de vie en bonne santé.
Patrice.
On entend dire en permanence qu'il y aura d'autres crises comme celle qu'on est en train de vivre. Qu'est-ce qui nous permet de l'affirmer aujourd'hui ?
Pendant des années, et même des dizaines d'années, les scientifiques qui observent ça ont dit « Attention, pour l'instant, on n'a pas eu de pandémie très grave, mais on a quand même plus de virus émergents chaque année à cause de ce qu'a dit Michel tout à l'heure, c'est-à-dire l'extinction des espèces. » Et donc, le deuxième événement majeur, c'est qu'au XXIe siècle, on a eu 4 pandémies, ce qui n'avait jamais existé avant. On a eu la grippe H1N1, le chikungunya, le Zika et maintenant la Covid-19. Donc il y a une accélération des microbes émergents, il y a une accélération des pandémies et c'est pour ça que les gens disent on va avoir d'autres problèmes statistiquement, c'est à peu près certain. On ne sait pas où ça va commencer, on ne sait pas quel type de virus ça va être, on ne sait pas à quel moment, mais on va en avoir, c'est une logique statistique qui est presque implacable.
On a beaucoup parlé pendant ces pandémies de la grippe espagnole hein, qui en 1918, un tiers de la population mondiale était touchée. Il y aurait eu, d'après les derniers chiffres, entre 50 et 100 millions de morts. Et puis, ça s'est arrêté. Pourquoi une épidémie, finalement, s'arrête ? Vous avez parlé chikungunya, Zika, etc. Elles étaient beaucoup plus localisées, régionalisées que le Covid qui a touché toute la planète. Et qu'est-ce qui fait que la grippe espagnole s'est arrêtée et qu'on peut imaginer que les autres épidémies fassent également ?
Eh bien, les épidémies s'arrêtent quand elles ont complété leur cycle, en quelque sorte. Alors, c'est vrai que la grippe espagnole a fini par s'arrêter, mais il y a, à mon avis, deux mais. Le premier mais, c'est qu'elle a quand même fait 3 vagues. Et la deuxième vague a été la pire. Il y a eu la majorité des morts en moins de 8 semaines. Dans le monde entier, en même temps. C'est ça qui est assez un peu fou, quoi, à concevoir. Donc déjà, elle a fait trois vagues qui ont duré un peu plus d'un an en tout. La deuxième chose, c'est qu'elle s'est arrêtée en tant qu'épidémie ou que pandémie, mais elle nous a laissé le virus qui restait endémique et qui continue de créer des épidémies saisonnières. Quelque chose que pas beaucoup de gens savent, c'est que tous les virus A, influenza qu'on a aujourd'hui, soit en endémie, soit en épidémie saisonnière, sont des descendants du virus de 1918. C'est le même virus, alors il mute régulièrement, il évolue, mais c'est tous des descendants de ce virus-là. Donc elle s'est arrêtée en tant que pandémie meurtrière à 50-100 millions de morts, mais le virus est resté là. Donc on peut penser que pour la pandémie actuelle, il faut que le virus accomplisse son cycle. La différence avec 1918, c'est qu'on est en train d'essayer d'interférer avec ce cycle en créant une vaccination de masse. Mais à un moment, effectivement, ça va pas s'éteindre complètement, mais probablement se mettre à un niveau minimum d'endémie. Et puis si la vaccination performe suffisamment, on peut espérer le maintenir à un niveau latent, voire peut-être le supprimer. On a déjà réussi à le faire avec la variole.
Merci beaucoup Jean-David Zeitoun. Alors, je vous répète, hein, ce livre est passionnant, et si on y parle des grands événements qui ont marqué l'histoire, qu'on a évoqué là, de la santé et de la médecine, c'est beaucoup plus large que ça, hein, puisqu'on y trouve de la santé publique, des inégalités, de l'impact du climat sur notre santé. Et je vais vous dire, Jean-David Zeitoun, ce qui m'a le plus étonné dans votre livre, c'est que vous ayez pu faire tenir tout ça en un peu plus de 300 pages. Voilà, toute l'histoire de la santé en un peu plus de 300 pages. Chapeau, je recommande ce livre, La grande extension, Histoire de la santé humaine, chez De Noël, par Jean-David Zeitoun. Merci beaucoup, et je ne sais pas pourquoi, mais je sens que Patrice Romden va vous inviter sur le plateau de son émission, sur la chaîne France Info, n'est-ce pas Patrice?
Absolument, il
salive. Merci, merci, à très bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie avec Coach Cricri.
RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo. RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Coach Cricri, aujourd'hui vous aviez des envies de freedom.
Oui, de liberté.
Courir comme ça, sans objectif particulier, sans exercice précis à faire pendant la sortie, sans se mettre la pression. Ça vous ressemble pas du tout.
De ne rien préparer, non. Mais comme quoi, tout finit par arriver. Et vous savez comment ça s'appelle, ce type de sortie en courant ou en marchant ou même à vélo, d'ailleurs, quand on fait un peu ce qu'on veut comme ça sur le parcours, ça s'appelle du fartlek.
Ah, et ça vient du suédois, heureusement, et pas de l'anglais.
Ah bah oui, c'est un suédois que vous parlez couramment, bien sûr.
Du suédois fart, vitesse, et
c'est
de
pour
lek.
Ça qu'on farte les skis.
Voilà. Lek, ça veut dire jeu. On le traduit par jeu de vitesse ou parfois aussi par jeu de course. Le fartlek est le précurseur de l'entraînement fractionné ou interval training. Il a été développé par l'athlète suédois Gustav Holmer en 1930.
Patrice devait avoir une copine suédoise à l'école de journalisme, c'est pas possible. Alors, faire du fartlek, c'est l'idée de liberté. Elle est là, cette idée. C'est faire en sorte que l'intensité de l'effort et la durée des intervalles entre lent et rapide ne soient pas planifiés à l'avance. C'est la nature du terrain, le dénivelé ou encore votre ressenti qui décide, avec cette idée que votre effort doit varier tout au long de l'entraînement. Le but du fartlek est de jouer avec la vitesse d'une manière naturelle, presque intuitive. Vous oubliez la fréquence cardiaque et votre chrono et vous variez votre allure quand vous voulez.
Voilà. Ah, c'est marrant parce que moi je fais du fartlek sans le savoir.
Eh ben,
c'est ce que je fais pendant que je fais du sport, surtout quand je suis Patrice à vélo et que par moment j'ai envie de rouler un peu plus vite que de rouler en marche arrière et donc je passe devant. Quels sont les avantages du fartlek?
Alors l'avantage, c'est que votre corps est en constante adaptation par rapport aux différentes vitesses et aux différentes surfaces. C'est très bon pour faire monter votre seuil d'endurance et donc votre résistance. Et comme ça, vous courez mieux et plus vite. Et puis l'alternance, par surprise, si je puis dire, entre intensité et foulée à la cool, fait que vous faites mieux travailler vos articulations, vos tendons, vos muscles. Par exemple, si vous décidez d'accélérer dans une descente, vous travaillez l'équilibre, la coordination et la souplesse avant de revenir à une course un peu plus lente.
Et j'ai une petite question, parce que je vous écoute assidûment et vous nous avez déjà parlé du fractionné. C'est quoi la différence avec le fartlek?
Alors, elle est de taille, cette différence. Pour une séance de fractionné, vous suivez un programme qui est défini précisément à l'avance sur les temps, les distances, voire les pulses que vous allez faire monter, mais aussi les différentes combinaisons d'exercices que vous allez effectuer. Quand vous faites du fartlek, vous vous surprenez vous-même, vous accélérez, vous ralentissez, vous passez un endroit dans lequel habituellement vous êtes à petite vitesse, et là vous décidez d'y porter une belle accélération. Vous repérez un arbre à 200 mètres devant vous en haut d'une petite côte, et bam, vous mettez un coup de gaz, et vous coupez l'allure une fois arrivé à sa hauteur. Comme vous le voyez, le fartlek est d'abord et avant tout extrêmement ludique. Il aura donc aussi un vrai intérêt psychologique qui vous apportera un nouvel élan de motivation pour, suivant la formule, aller toujours plus haut, plus fort.
Plus loin. Et oui. Puis, ce qui est bien, c'est que cette méthode de mix entre intensité et basse fréquence est tout autant valable pour les athlètes de haut niveau que pour ceux qui n'ont pas plus d'ambition que nous, c'est-à-dire de se sentir mieux. Alors, vous connaissez mon combat quotidien pour vous pousser à bouger, à transpirer. Ça tombe bien, quelques libertés nous ont été redonnées. Profitez-en, faites du sport, de l'exercice, dépensez-vous, ce sera bon. Et pour votre corps, et pour votre tête. Les amis, Patrice, un petit mot avant qu'on se quitte tout à l'heure.
Oui, les gens qui se plaignent d'insomnie. À partir de quand peut-on parler d'insomnie aiguë, d'après vous ?
Quand on se réveille au moins deux fois par nuit, je sais pas.
Alors, c'est si pendant 15 jours.
Un peu plus que ça. Si vous avez du mal à dormir au moins trois fois par semaine et que le problème dure depuis au moins un mois, là, on peut parler d'insomnie aiguë. Et là, il faut ou consulter ou prendre un somnifère, mais toujours avec prescription médicale.
Toujours sur conseil de son médecin, bien évidemment.
Tout à fait.
Emma.
Moi, j'ai une petite astuce naturelle contre les douleurs musculaires après le fartlek ou autre chose. On mélange deux gouttes d'huiles essentielles d'ylang-ylang à deux gouttes de lavande officinale et tout ça à 10 gouttes d'huile végétale de noisette. Donc 2 gouttes d'ylang-ylang, 2 gouttes de lavande officinale, 10 gouttes d'huile végétale de noisette, et on fait ça en massage
qu'est-ce
sur les muscles.
L'ylang-ylang,
c'est pour masser. Deux fois par jour.
L'ylang-ylang, pardon.
Masser, non, ouais,
il faut faire
fait.
Il faut faire gaffe, hein, parce que les huiles essentielles, ça s'avale pas. Parce que là, on pourrait se dire que c'est pour une vinaigrette.
C'est un petit massage deux fois par jour.
Personne m'écoute, mais l'ylang-ylang, pardon, je ne sais pas ce que
personne
c'est.
Ne vous écoute, ça ne nous intéresse pas.
Qu'est-ce donc?
Parce que personne
c'est
n'a
l'huile essentielle.
Ah, c'est l'huile essentielle.
Oui, c'est l'huile essentielle.
Ylang-ylang.
Vous demandez à votre pharmacien.
Oui, il y a menthe poivrée, il y a machin,
Rabissara,
et ylang-ylang.
Voilà. L'homme de la nature.
Voilà, merci beaucoup les amis Emma, Christophe et Patrice. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous écouter. Toutes les semaines, le dimanche matin, à 9h15, vous savez que l'émission se termine toujours par ça.
Oh, la belle vie.
Alors oui, c'est la belle vie, on a retrouvé les terrasses, on va retrouver une vie à peu près normale, mais s'il vous plaît, continuez à faire attention, le virus circule encore, donc les gestes barrières, respectez-les, le masque, le lavage des mains au gel hydroalcoolique, vous gardez la distanciation sociale le plus possible, même si vous allez en terrasse, on fait attention pour ne pas contaminer les autres, parce que, je vous le rappelle, le virus circule, il ne faudrait pas qu'on se reconfine. On vous souhaite une très belle semaine et on vous retrouve dimanche prochain, 9h15. Au revoir les amis.
Bon dimanche.
Bonne semaine.
RTL.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.